This city, of all cities, knows the dream of freedom.
Toi qui souffres, ici on t'aime.
I take pride in the words, Ich bin ein Berliner.
I have a dream.
Ça ne durera pas toujours cette guerre.
J'invite tous les militaires français, où qu'ils se trouvent, à se mettre en rapport avec moi.
François Mitterrand l'affirme, il est en pleine santé.
Attendez que la gauche porte The Wear en 2012.
I said I want to fuck her.
Que des mots pas très gentils.
Et tout se résume à aujourd'hui.
Jazzons l'histoire ou quand le jazz retrouve quelques repères. Une émission de Gérard Viols et Alain Vaquier réalisée par Bruno Bertrand. Cette année-là, donc en 1958, c'est une année terrible. C'est l'année du grand bond en avant en Chine. Nom donné à la nouvelle politique économique lancée par Mao Tse-tung à coups de propagande et de coercition en direction de toute la population, enfants compris. Il s'agit de doper la production par une collectivisation massive et systématique en agriculture, puis dans l'industrie et dans des travaux publics totalement irréalistes. Un vaste mouvement de dépossession de soi sur le plan psychologique, puisqu'on sépare les hommes des femmes, on isole les enfants, le foyer parental, entre autres, n'existe plus. Cette dépossession de soi va transformer profondément la vie des Chinois. Et c'est à l'occasion du 8e congrès du Parti communiste chinois, du 5 au 23 mai 1958, que Mao Tse-tung lance ce mot d'ordre du grand bond en avant, dont l'objectif est de permettre à la Chine, tenez-vous bien, de rattraper le Royaume-Uni en 15 ans. Il faut savoir qu'en 1958, les statisticiens donnent le niveau de vie des Chinois à peu près au niveau de ce qu'était l'ouvrier soviétique en 1928. Cette idée pique Mao Tse-tung le stimule dans un mauvais sens, puisque à partir de là, il va vouloir doper donc cette production à n'importe quel prix. Ce qui va en faire l'un des bourreaux les plus efficaces du XXe siècle. Alors, les choses ne vont pas se passer aussi simplement. 4 ans après, ce sera la plus grande famine qu'ait connue la Chine. L'échec est total et on évalue à peu près entre 35 et 55 millions de morts, selon les historiens, les victimes donc de cette famine. Pour donner un élément de comparaison, 55 millions de morts, c'est le chiffre total des victimes de la Deuxième Guerre mondiale, c'est-à-dire le front européen plus le front pacifique, la guerre entre le Japon et les États-Unis, plus la Shoah, donc ça, c'est l'ensemble global. Et ben lui, il va presque réussir en un seul coup, en 4 ans, à éliminer autant de gens. Alors cet exploit, si on peut dire, sans être trop ironique, fait de Mao l'égal, bien sûr, de Staline ou de Hitler. Il ne faut pas avoir peur des comparaisons. C'est lui le principal coupable de cette catastrophe. Alors malgré tout, il va 4 ans après, donc lorsque les choses vont être catastrophiques, il va faire son autocritique, mais il ne va pas cesser de diriger la Chine et il va même se retourner contre celui qu'il a désigné comme son dauphin, Liu Shaoqi, qui est pourtant celui qui arrêtera cette famine, qui donc rétablira une forme de propriété privée et relancera l'économie chinoise. Eh bien, Liu Shaoqi sera arrêté et quelques années plus tard, Mao Tse-tung reprendra la main en lançant une autre catastrophe que sera la révolution culturelle, en s'appuyant sur la jeunesse contre la société. Et donc, il va monter une classe d'âge contre tout le reste de la société. Mais ça, c'est plus tard, donc de 64 à 68, 65-68. Alors, je vous propose d'écouter le commentaire d'un film de propagande commentaire qui est passé sur Arte et qui sera suivi d'un témoignage d'un historien, Yang Yingzhen, et du témoignage également de la fille de Liu Shaoxi, donc le dauphin déclaré qui a ensuite été emprisonné et qui est mort en prison d'ailleurs des suites de mauvais traitements.
今年全国的农村都在大跃进，蕲水也同样的在跃进着。
Le district rural de Shenyang, à 800 km au sud de Pékin, a été choisi comme modèle national. En 1958, plus d'un million de fonctionnaires de toute la Chine y sont allés pour apprendre. Ce film de propagande de l'époque vante les réalisations du district en montrant les profits exemplaires que le système communautaire peut générer s'il est appliqué avec le zèle nécessaire. Mais ces images ne sont qu'un mensonge.
La famine commença à apparaître durant l'hiver 1958 dans les provinces du Shandong et du Henan. Selon les chiffres officiels, le nombre de morts passa de 1 440 000 en 1958 à 4 620 000 en 1959. Puis en 1960, à presque 10 millions. J'ai moi aussi analysé les chiffres. À mon avis, la famine, durant cette période, a fait en tout 38 millions de victimes. Le cannibalisme s'est répandu, du moins à Xinjiang. Les gens coupaient des morceaux de chair sur les cuisses des cadavres et les rapportaient chez eux pour les faire cuire. On a vu aussi des cas où certains mangeaient des personnes vivantes. Des gens mangeaient même leurs propres enfants. Les gens n'avaient pas peur des morts, mais des vivants, car eux pouvaient vous manger.
Il n'existe pas une seule photo de la famine. Personne n'en a jamais pris. La famine reste un secret, masqué par des images d'abondance. Mao sait que si la vérité éclate, les ennemis de Pékin vont jubiler à l'idée des souffrances causées par sa politique. À Xinjiang, la région modèle, où 1 million de personnes, 1/8 de la population est mort de faim, les médias de l'État dépeignent un monde souriant, totalement fictif. Afin que personne n'apprenne la vérité, la zone est bouclée et la circulation des personnes et des informations est interdite. Lors d'une conférence nationale en 1962, Liu Shaoxi cite son informateur. La famine est due pour 30% aux catastrophes naturelles et pour 70% aux erreurs humaines. Mao est furieux. Il fait son autocritique avec réticence. Son autorité est intacte, mais il commence à se demander si Liu est bien le successeur qui convient.
Mon père a introduit de nouvelles lois, l'une après l'autre. Ces lois permettaient à chaque famille d'exploiter vraiment la terre et de donner aux paysans des lopins privés où ils pouvaient cultiver des produits pour eux. Plus tard, le président Mao a critiqué ces mesures en disant qu'elles étaient bien pires que celles de Khrouchtchev.
Mao réfléchit à ce qu'il lui reste à faire.
Nous n'avons compris que plus tard. Il a dit, nous devons former la nouvelle génération des révolutionnaires qui nous succéderont. Et la seule façon pour eux d'apprendre à devenir des dirigeants, c'est de faire la révolution. Il n'est pas entré dans les détails, mais si on se dit, contre qui pouvait-il faire la révolution, je répondrai, contre son propre gouvernement et contre le parti. C'était la seule possibilité.
Cela commence par un mouvement de protestation des collégiens. Ils dénoncent les autorités scolaires et surtout la bureaucratie du parti. En mai, une jeune enseignante de philosophie colle une affiche murale accusant la direction de son université d'être réactionnaire. Mao prend fait et cause pour elle et la jeune femme, Ni Yuanzi, devient célèbre. Le 18 août 1966 à l'aube, Mao apparaît en personne pour passer en revue ses jeunes sympathisants. un million ou plus de troupes de choc qui ont répondu à son appel pour soutenir la pureté de la révolution chinoise.
Voilà, donc de 1958 à 1968, 10 ans vont voir se succéder le grand bond en avant et la révolution culturelle chinoise. Et ce sera 10 ans de non-développement, puisque ça va se traduire par de grosses difficultés pour la Chine, et qui n'en sortira que grâce à Deng Xiaoping, qui fut celui qui a modernisé la Chine et celui qui l'a fait entrer dans un capitalisme d'État. Alors cette période, ces 10 années, sont complètement occultées par l'historiographie classique chinoise. Et il y a tout un travail donc, de chercheurs ou d'auteurs qui tentent de montrer ce qui s'est passé et à quel point Mao Zedong a fait sombrer son peuple dans notamment la famine et dans des errements absolument terribles. À l'occasion du 90e anniversaire du Parti communiste chinois, un journaliste, photographe, Du Bing, a publié à Hong Kong le purgatoire de Mao. Voici son témoignage.
Le purgatoire du président Mao est la dernière publication du journaliste photographe Du Bing. Publié la semaine dernière à Hong Kong, le livre trace par une collection de photos et d'enregistrements historiques la prétendue campagne du régime chinois appelée « Grand bond en avant ». Cette campagne était la grande idée de Mao Tse-tung, alors dirigeant du Parti communiste. Ce fut l'une des pires périodes de dilapidation économique. Par sa recherche d'un développement agricole et industriel rapide, Mao a causé la mort, entre 1959 et 1962, de dizaines de millions de paysans chinois. Cette période dérange considérablement le régime chinois. Elle est passée sous silence dans les livres d'histoire. Du affirme que son nouveau livre va combler les failles du passé, alors que le PCC célèbre cette année son 90e anniversaire.
La sortie de ce livre coïncide avec le 90e anniversaire de la fondation du PCC. Actuellement à Pékin, des livres sur l'histoire du parti sont publiés. Le PCC tente d'enjoliver son passé et passe sous silence les périodes de la révolution culturelle et du grand bond en avant. Il essaie d'effacer cette page honteuse de l'histoire. Mais nous pouvons affirmer que mon livre comble les failles de l'histoire en remémorant les véritables souffrances de cette époque.
Le grand bond en avant de Mao a pris place alors que le Parti communiste tentait de consolider son pouvoir par sa puissance économique. Il venait juste de prendre le contrôle de la Chine en 1949, après avoir vaincu le Kuomintang. Le PCC a alors pris le contrôle de la production agricole, il a renvoyé les agriculteurs vers la production d'acier et s'est emparé des céréales pour couvrir la dette extérieure. Les fonctionnaires communistes des campagnes gonflaient souvent les chiffres de production pour plaire à leurs supérieurs, laissant très peu à manger aux paysans. Cette pratique, doublée d'un faible rendement, a provoqué la grande famine.
Dans mes recherches, j'ai découvert que Mao avait l'intention réelle d'affamer ces gens et des dizaines de millions de Chinois sont morts de faim. En toute conscience, il a continué à obliger les paysans à céder leurs céréales.
Officiellement, le PCC rend les désastres naturels responsables de la famine et ne reconnaît que 14 millions de morts pour la période du grand bond en avant. Cependant, d'autres estimations réévaluent le nombre de décès entre 35 et 77 millions et incriminent directement les politiques de Mao comme responsables de ces morts.
Alors, ce qui est le plus effarant dans cette histoire, c'est que le peuple chinois, et notamment donc, tous ceux qui étaient confrontés à cette famine, en sont arrivés à des extrémités terribles. Et déjà, dans un précédent témoignage, on a entendu parler de cannibalisme. Alors une chercheuse qui s'appelle Zhu Sung a donc fait tout un travail d'exhumation de ce qui a pu réellement se passer. Et j'avoue que les choses sont assez affreuses, puisque les gens ont à la fois quelquefois mangé des cadavres et quelquefois mangé des gens, des vivants. Ils se sont attaqués à des vivants. Et donc cette chercheuse a écrit, elle publie le résultat de ses recherches. Évidemment, tout ça se fait à Hong Kong, parce qu'évidemment, c'est inenvisageable à Pékin, là où siège évidemment le Parti communiste chinois. Et donc, cette chercheuse est très bien placée pour faire ce travail, puisque en dehors du fait qu'elle est donc une historienne tout à fait efficace et professionnelle. Sa famille, qui est du Sichuan, et le Sichuan, c'est une des régions qui a beaucoup, beaucoup souffert de la grande famine chinoise.
Dans les livres historiques chinois, la période entre 1958 et 1961 était les 3 ans de désastre naturel. Mais pour la plupart des historiens, elle a été la grande famine, car moins de 45 millions de Chinois sont morts, ce qui a été largement attribué à la mauvaise gestion sous l'ancien dirigeant du Parti communiste Mao Zedong. Cette année, pour le 50e anniversaire de la Grande Famine, un professeur d'histoire de l'Université de Hong Kong a publié un livre donnant un rare aperçu sur ce qui s'est produit à l'époque. Jo Shuin est aussi assistante de l'historien allemand Frank Dicotter, un expert de l'histoire chinoise sous le règne de Mao. Jo a passé 4 ans à consulter des dizaines d'archives chinoises provinciales et cantonales pour recueillir des données. Son livre contient plus de 100 extraits de documents. Certains rendent compte de personnes battues à mort, d'autres plus choquantes comme des preuves de massacres cannibalesques. La grande famine est arrivée en pleine campagne du grand bond en avant de Mao, connu pour avoir fixé des quotas industriels inatteignables comme dans la production de l'acier. Dans la province du Hunan, Zhou a parlé à des victimes de cette période, celles complètement déshabillées en public par les autorités essayant d'appliquer les quotas. Zhou a dit qu'obtenir des données pour son livre n'avait pas été facile, les autorités chinoises gardant soigneusement les archives. Mais l'historienne qui a étudié l'histoire juive est déterminée à ne pas laisser l'histoire afin d'en être oubliée.
为什么全世界都知道犹太大屠杀，没有几个人知道中国的大饥荒？我觉得作为一个搞历史的人来说，这是非常重要，是我的一个职责，让全世界。
Née dans la province du Sichuan, la propre famille de Zhou a été victime de la grande famine. Elle a le projet d'un nouveau livre qui inclura les souvenirs verbaux de plus de 100 témoins.
Voilà une histoire qu'il convient de suivre car ça n'est pas terminé. De nombreuses révélations probablement seront faites par les chercheurs. En tout cas, on peut se poser des questions quand on voit ici, à Montpellier, les statues de Staline et de Mao Tse-tung trônées dans un lieu public à Odysseum. En 1958, on peut entendre à l'autre bout de la planète le deuxième opus de l'année d'un grand musicien de jazz, Miles Davis, et ses Porgy and Bess.
Thank you.
magnifique phrasé de la trompette de Miles Davis, donc « It ain't necessarily so », une composition de George Gershwin, extrait de son opéra noir « Porgy and Bess », le tout arrangé par un musicien qui a rencontré Miles Davis, donc Gil Evans, lequel va réaliser plusieurs albums avec Miles et avec une formation plus importante que le quintet habituel. C'est un très bel album donc, qui succède à Milestones, dont j'ai passé des extraits dans un précédent épisode, et qui donc est le deuxième album de l'année 58 de Miles. Alors, concernant Gil Evans, qui donc a fait les arrangements et qui donne cette espèce d'atmosphère feutrée, un petit peu angoissante par moments dans la musique de Miles. Donc Gil Evans apparaît dans ces années-là et en 58, il écrit également pour une grande formation sous son nom et dont le drummer est Art Blackie. Et ce sont les Jazz Giants de Gil Evans qui arrangent une composition de Charlie Parker, Bird Feathers. Thank you. Bird Feathers, une composition de Charlie Parker, jouée par une grande formation, dirigée et arrangée par Gil Evans, enregistrée le 26 mai 1958 à New York. Et vous avez pu entendre successivement Cannonball Adderley au saxophone alto, Johnny Coles à la trompette et Paul Chambers à la contrebasse qui jouait glissando, c'est-à-dire avec un archer. Une musique très écrite, mais qui laisse donc des plages très libres, des plages d'expression pour les solistes. C'est une signature très particulière et très significative de Gil Evans, un nom à retenir. Voilà, demain nous entamerons le dernier épisode de cette année 1958. On essaiera de le faire avec des choses moins tristes, encore que, mais c'est une autre histoire.
This city, of all cities, knows the dream of freedom.
Toi qui souffres, ici, on t'aime.
I take pride in the words, Ich bin ein Berliner.
I have a dream. Ça ne durera pas toujours cette guerre.
J'invite tous les militaires français, où qu'ils se trouvent, à se mettre en rapport avec moi.
François Mitterrand l'affirme, il est en pleine santé.
Attendez que la gauche porte j'ai ouvert en 2012.
I said I want to fuck her.
Que des mots pas très gentils.
Et tout se résume à aujourd'hui.